Nous arrivons presque au terme de notre parcours de la deuxième lettre de Paul à Timothée. Cette lettre qui fait partie des textes que nous étudions cette année. Et c'est la dernière lettre de l'apôtre Paul, si on prend ces lettres dans l'ordre chronologique. Si on peut baisser un tout petit peu le micro, un peu fort. Et cette lettre est une sorte de testament que Paul envoie à l'un de ses plus proches collaborateurs, Timothée, pour l'encourager dans sa marche et son service avec Dieu. Et à la fin de cette lettre, Paul dit à Timothée : j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est 2 Timothée chapitre 4 verset 7 et c'est le verset que Patrick avait partagé avec nous le mois dernier. Cette semaine, enfin ce mois-ci, pour cette première prédication du mois, nous allons lire la suite et la fin de cette deuxième lettre de Paul à Timothée. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible dans 2 Timothée chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 9 et jusqu'à la fin de cette lettre. 2 Timothée 4 verset 9 à 22. Efforce-toi de venir me rejoindre dès que possible, car Démas m'a abandonné. Il a aimé le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Crescens est rendu en Galatie, Tite en Dalmatie, seul Luc est encore avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est très utile pour mon ministère. Quant à Tychique, je l'ai envoyé à Éphèse. Lorsque tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, ainsi que les livres, surtout les parchemins. Alexandre, l'orfèvre, le forgeron, a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Le Seigneur lui donnera ce que lui auront valu ses actes. Toi aussi, garde-toi de lui, car il s'est opposé avec acharnement à notre prédication. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister. Tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. C'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a donné la force d'annoncer pleinement le message pour qu'il soit entendu par tous les non-juifs et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Amen. Salut Prisca, Aquilas et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe. Quant à Trophime, il était malade et je l'ai laissé à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Prudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec toi et que sa grâce soit avec vous. Ces dernières paroles de l'apôtre Paul sont tristes, mais aussi belles et pleines d'espoir. Ces paroles peuvent peut-être nous paraître décousues ou sonner comme une sorte de rassemblement d'idées qui passent par la tête de Paul. Viens me voir avant l'hiver, amène mon manteau, attention à Alexandre le forgeron, personne ne m'a assisté durant mon procès, salut Prisca et Aquilas, j'ai laissé Trophime malade à Milet, que le Seigneur soit avec toi. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Bon, il y a quand même une idée principale, une idée centrale ici. Le pasteur John Piper, dans une prédication dont je me suis inspiré pour la mienne ce matin, résume ainsi ce passage. Quelles que soient les difficultés de notre vie chrétienne, Jésus est celui sur qui l'on peut compter. Quelles que soient les difficultés de la vie chrétienne, Jésus et sur lui, sur lequel on peut compter. C'est ce qui est dit dans les versets 17 et 18, qui sont probablement les versets les plus importants de ce passage, Peut-être on pourrait laisser la porte ouverte parce que ça permettrait de la faire grincer. Merci. Versets 17 et 18. C'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a donné la force d'annoncer pleinement le message pour qu'il soit entendu par les non-juifs. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Le Seigneur me délivrera. C'est le titre que j'ai donné à cette prédication. Ces versets clés, 17 et 18, pour bien les entendre, il faut les regarder dans toutes ces idées qui paraissent décousues dans ce texte. Et donc j'aimerais passer en revue avec vous ce matin 7 courtes observations. On s'écarte des 3 points un peu traditionnels de la prédication. Ce matin, il y en aura 7 plus courts. 7 constats, 7 points, 7 courtes observations. Numéro 1. La vie chrétienne est parfois difficile au niveau des relations. Vous avez peut-être remarqué le nombre de personnes que l'apôtre Paul cite dans cette fin de lettre. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que la vie chrétienne est parfois si difficile au niveau des relations ? Premièrement, parce que certains abandonnent leur ministère. C'est ce que Paul dit au verset 10, la première partie du verset. Démas m'a abandonné. Il a aimé le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Démas était sans doute un collaborateur et un collaborateur fidèle. Dans Colossiens chapitre 4 verset 14, Paul dit « Notre cher ami Luc, le médecin, et Démas vous saluent ». S'il s'agit bien du même Démas, on constate que ce Démas faisait partie de l'équipe de Paul et qu'il est parti. Il a abandonné l'équipe, il a abandonné son ministère. Pourquoi la vie chrétienne est parfois difficile au niveau des relations ? Aussi parce que les circonstances peuvent nous éloigner les uns des autres. C'est ce que Paul dit dans la suite de ce verset 10. Crescent et s'est rendu en Galatie, Tite en Dalmatie. Seul Luc est encore avec moi. Et à la fin de notre texte, verset 20, il dit « Éraste est resté à Corinthe. Quant à Trophime, il était malade et je l'ai laissé à Milet. » Et il ajoute « Efforce-toi de venir avant l'hiver. » Paul ne dit pas que Crescent, Tite ou Éraste ont abandonné leur service, contrairement à Démas. Mais le fait de mentionner ses collaborateurs séparément montre que l'équipe qui avait travaillé ensemble pendant un temps s'est séparée, à cause du service pour Dieu, justement. L'œuvre de Dieu avance, les collaborateurs se multiplient et le Seigneur les envoie ailleurs. C'est comme ça. Nous sommes dans une union d'églises qui s'appelle Perspective et qui, en collaboration avec les églises locales, font que des pasteurs et des missionnaires viennent pendant un temps travailler avec une église locale et puis ensuite vont travailler ailleurs. Ce sera notre cas pour nous, la famille Lombay, dans probablement quelques années. Pour Trophime, on le voit, c'est à cause de la maladie qu'il n'a pas pu continuer à travailler avec l'équipe. Et Paul évoque même les limites liées aux saisons, l'hiver, qui probablement limitait les voyages en bateau. Toutes sortes de raisons peuvent amener des chrétiens qui ont cheminé ensemble pendant un temps, pendant des années même, à se séparer. Et ce n'est pas toujours simple à vivre. On connaît l'œuvre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. J'y fais souvent référence parce que c'est une œuvre que je considère comme géniale, que j'aime beaucoup. Le premier tome de la trilogie du Seigneur des Anneaux s'intitule « La communauté de l'anneau ». Une communauté, une équipe s'organise pour emmener l'anneau unique dans le pays de Mordor afin de le détruire. Des liens se tissent entre les membres de cette équipe. Et d'ailleurs en anglais, « The Fellowship of the Ring », »,« Fellowship », ça veut dire aussi « amitié ». Mais en chemin, la communauté se dissout. Gandalf tombe au pont de Khazad-dûm. Boromir est tenté par le pouvoir de l'anneau et provoque la fuite de Frodon, qui part seul avec Sam. Pipin et Merry sont enlevés par des orques de Saruman. Aragorn, Legolas et Gimli partent à leur poursuite. La communauté de l'anneau est séparée. L'apôtre Paul faisait partie d'une équipe de collaborateurs qui œuvraient ensemble à l'annonce de l'Évangile. Et maintenant, chacun travaille un peu de son côté. Ce n'est pas mal, mais ce n'est plus pareil. Les liens relationnels qu'on tisse quand on travaille ensemble, ça compte. Et maintenant, que reste-t-il à Paul ? Paul est en prison et il ne se fait aucune illusion quant à l'issue du verdict qui va être prononcé contre lui. Il va être condamné à mort. Démas a été tenté, non pas par l'anneau, mais par le monde présent, c'est-à-dire des priorités à court terme et probablement davantage dans ses propres intérêts, comme Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. Et les circonstances ont éloigné les autres collaborateurs, sauf Luc, nous dit Paul, qui peut être un peu pour Paul ce que Sam Gamgee est pour Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. La vie chrétienne est parfois difficile au niveau des relations. Pourquoi ? Troisièmement, parce que certains nous critiquent et s'opposent à nous. Verset 14. Paul dit « Alexandre, le forgeron, a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. » Et à la fin du verset 15, « Il s'est opposé avec acharnement à notre prédication. » Personne n'aime être la cible de critiques méchantes. C'est dur d'être insulté. Cela nous blesse intérieurement. Et cela arrive malheureusement, et pour certains d'entre nous, cela peut arriver souvent. Quatrième raison pour laquelle la vie chrétienne est parfois difficile au niveau des relations, parce que certains nous abandonnent. Verset 16. Paul dit « La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister. Tous m'ont abandonné. » Il avait déjà dit d'ailleurs, en parlant de Démas, verset 10, « Démas m'a abandonné. » L'apôtre Paul a vécu ce que Jésus a vécu lui-même lorsqu'il a été arrêté, et que tout le monde l'a abandonné, y compris les disciples qui étaient soi-disant prêts à mourir pour lui. Tous m'ont abandonné, dit Paul. Première observation donc, la vie chrétienne est parfois difficile au niveau des relations. Deuxième observation, certains chrétiens abandonnent la vie chrétienne et ne reviennent pas. De nouveau, le cas de Démas. Démas m'a abandonné, il a aimé le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Nous ne savons pas ce que Démas est devenu. Aucun verset ne nous dit qu'il s'est repenti. Aucun verset ne nous dit s'il a continué dans son abandon de la foi. Mais ce verset évoque une réalité. Certaines personnes que l'on croyait chrétiennes, parfois des pasteurs, des collaborateurs, des amis, des gens qui professaient la même foi que nous, qui se sont fait baptiser, qui parfois faisaient partie de la même communauté chrétienne, ont abandonné l'Église, ont abandonné la foi. Et autant que nous puissions le mesurer, ne sont pas revenus. Et Paul, dans ses dernières recommandations, transmet cela à Timothée. Il y a un amour, un attachement pour le monde présent qui détruit la vie chrétienne, ou ce qu'on pensait être une vie chrétienne. Démas a fait un choix. Il a préféré les priorités liées à ce monde plutôt que de poursuivre l'aventure avec Paul et son équipe. Et Paul semble d'ailleurs considérer qu'il est lui-même la cause du départ de Démas. Démas m'a abandonné. C'était trop coûteux pour Démas de continuer à suivre Paul par rapport aux intérêts plus immédiats que procure le monde. Il est donc parti. Il y a un attachement à ce monde qui est incompatible, irréconciliable avec l'attachement à Jésus. Si nous aimons les valeurs de ce monde plus que Jésus, nous ne pouvons pas dire aux gens autour de nous qu'ils se perdent dans ce monde, puisque nous vivons comme eux. Il n'y a pas de différence entre eux et nous. Si nous embrassons la mentalité de ce monde, nous sommes un des leurs. Nous ne sommes pas chrétiens. Pourquoi Démas est-il parti à Thessalonique ? Était-ce pour y rejoindre une femme ? Était-ce pour y retrouver ses racines familiales, là où il avait grandi ? Quand on est fatigué et lassé, on est parfois nostalgique du bon vieux temps, n'est-ce pas ? Et pas seulement quand on a 90 ans. On revient là où l'on a de bons souvenirs, de la joie, du bonheur. Enfin laisser Paul et tous les tracas de la mission pour simplement rentrer chez soi. Démas a-t-il eu une opportunité professionnelle ? Une possibilité unique de faire carrière, de gagner de l'argent ? Parce que la vie dans l'équipe de Paul, niveau business, ça rapportait pas grand-chose. Ou simplement a-t-il eu le désir de s'éloigner définitivement de ce fêlé de Paul ? Nous ne savons pas. Tout ce que nous savons, c'est que Démas n'est pas parti à cause de son amour pour Jésus, mais pour ce monde présent. C'est donc un avertissement pour nous. Troisième observation. Certains chrétiens peuvent nous quitter et pourtant continuer à servir Dieu. Il n'y a pas que des masses. Il y a aussi des marques. Verset 11. Seul Luc est encore avec moi. On va voir Luc après. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est très utile pour mon ministère. Qui c'est Marc ? Il s'appelle aussi Jean, Jean-Marc. C'est celui qui a écrit l'évangile, selon Marc, le secrétaire de l'apôtre Pierre, qui a collaboré avec Paul pendant quelque temps. Marc était avec Paul et Barnabas dans leur premier voyage missionnaire. Vous pourrez relire ce récit dans le livre des Actes, Actes chapitre 13 et 14. Et en cours de route, pendant ce premier voyage, Marc a abandonné Paul et Barnabas. Et Paul n'a pas voulu le reprendre dans son équipe pour un deuxième voyage, alors que Barnabas, qui était le cousin de Marc, peut-être que les liens familiaux ont joué là, voulait lui l'emmener. Et du coup, Paul et Barnabas se sont fâchés à cause de Marc et se sont séparés. Eh bien, des années plus tard, Paul peut dire à Timothée, ce que nous lisons là, « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est très utile pour mon ministère. » Certains chrétiens peuvent nous quitter et pourtant rester des partenaires dans notre service pour Dieu. Il y a aussi des Luc. Luc est dans l'équipe de Paul depuis son deuxième voyage missionnaire. On peut le savoir parce que, puisque c'est Luc qui a écrit le récit des Actes des Apôtres, lorsqu'il est dans l'équipe, il dit « nous ». Nous. Et la première fois qu'il dit « nous », c'est au chapitre 16 du livre des Actes. Paul l'appelle « le médecin bien-aimé », chapitre 4, verset 14 de Colossiens. Luc était pour Paul un ami très proche. Certains pensent même qu'il était peut-être son médecin traitant. Et au verset 11, nous l'avons lu, Paul dit « Luc est resté seul avec moi ». Luc, le dernier collaborateur fidèle à l'apôtre Paul. Mais au verset 16, nous l'avons lu aussi tout à l'heure, Paul dit « La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu assister. Tous m'ont abandonné. Où était Luc ? Et au verset 21, Paul dit « Eubulus, Prudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. » Donc des gens qui sont là à Rome avec Paul. Mais au verset 16, Paul dit « La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister. Tous m'ont abandonné. » Où étaient-ils les Eubulus, Prudence, Linus et Claudia ? Lorsque Paul a comparu à son procès, quelle réponse donne Paul à cet abandon ? Il dit au verset 16 qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Paul adresse à Timothée des salutations de la part de ceux qui l'ont abandonné au moment où il en avait sans doute le plus besoin. Vous voyez, Paul n'en fait pas un sujet de rancœur, d'amertume ou de dispute. Et il choisit de les nommer dans les salutations à Timothée à qui il écrit. Dans notre vie, nous avons nous aussi de nombreuses occasions de nous sentir abandonnés. Par notre conjoint, par nos enfants, en particulier quand ils grandissent, par une amie, par le pasteur, par une sœur de l'Église, parfois par l'Église tout entière. Nous pouvons penser que ces personnes ne nous aiment pas, sinon elles se manifesteraient pour nous soutenir, pour nous dire qu'elles nous aiment. C'est parfois vrai, mais c'est souvent faux. C'est parfois vrai. Nous avons prié pour l'opération de notre frère Jean-Pierre. L'intervention s'est bien passée, et dans les 2 mois qui ont suivi, une sœur de l'Église seulement lui a demandé de ses nouvelles. Pardonne-nous, Jean-Pierre, de ne pas avoir été plus attentif à ta convalescence. Nous avons sans doute besoin de progresser dans l'amour fraternel. Mais le raisonnement qui consiste à dire systématiquement si c'était un vrai chrétien ou une vraie chrétienne ou une vraie église, il ou elle ferait ceci ou cela pour moi. C'est faux. La vie n'est pas aussi simpliste que ça. Il y a des imperfections dans la vie humaine. Il y a des défaillances. Il y a des ratés. Il y a des oublis, des maladresses, qui ne sont pas des fautes morales. Il n'y a pas de lien direct et systématique entre être défaillant dans les relations et ne pas être chrétien. Ce n'est pas vrai, la vie ne fonctionne pas comme ça. Et quand bien même il y aurait une faute morale, prenons comme exemple l'attitude de Paul ici, qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Ne retenons pas notre pardon. Pardonnons-nous les uns les autres. Nos amis ou nos frères et sœurs en Christ ne sont pas toujours là quand nous en aurions besoin, c'est vrai. Et pourtant, ils restent nos amis et nos frères et sœurs en Christ. Maintenant, le choix nous appartient. Le choix de continuer à les considérer comme des amis, des frères, des sœurs, ou alors d'en faire des ennemis. Celui-là, il ne pas dit bonjour le dimanche 5 mai 1999 à 10h27 et 34 secondes. Il m'a manqué de respect. Ça fait exactement 20 ans aujourd'hui. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ces amertumes qui nous pourrissent l'esprit et qui nous empêchent d'accepter les défaillances des autres ou de leur pardonner. Quatrième remarque, Jésus est l'ami par excellence. Pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez mettre ami avec un A majuscule. Jésus est l'ami par excellence. Jésus est celui sur lequel on peut compter, même quand les autres nous abandonnent. De nouveau, les versets 17. Car c'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a donné la force d'annoncer pleinement le message pour qu'il soit entendu par tous les non-juifs. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Aucun ami humain, aucun frère, aucune sœur dans l'Église, aucune personne autour de nous n'est infaillible à ce point-là. Jésus est un ami unique dans ce sens-là. C'est de cet ami par excellence que Démas s'est éloigné. Démas a préféré les amitiés plus concrètes, plus immédiates de ce monde à l'amitié de Jésus. Mais des amitiés qui, en définitive, ne sauvent pas. N'imitons pas son exemple. Ne nous détournons pas de Jésus et de son Église. Paul donne à Timothée cet avertissement qui est pour nous aussi ce matin. Quand les amis chrétiens seront défaillants, et ils seront défaillants d'une manière ou d'une autre, ne laisse pas leur défaillance t'affecter au point de rejeter Jésus, l'ami infaillible par excellence. On entend parfois ce genre de discours. Si c'est ça l'Église, si c'est ça être chrétien, alors je n'en veux pas. Je ne veux pas de votre Jésus. Et ce n'est pas la sagesse qui fait tenir ce genre de discours. C'est la folie. Et ce n'est pas comme cela que Paul réagit dans notre texte. Jésus est l'ami par excellence. Cinquième remarque. L'amitié unique de Jésus ne remplace pas l'amitié des autres chrétiens. Vous entendez ? L'amitié unique de Jésus ne remplace pas l'amitié des autres chrétiens. Jésus n'a jamais dit que la joie de sa présence remplacerait la joie de la présence des autres chrétiens. Disons-le autrement. Le caractère unique de notre relation avec Jésus n'annule pas nos relations avec les autres membres de la communauté. Au contraire, notre relation unique et personnelle avec le Christ est le moteur de nos relations les uns avec les autres. Sa présence, Jésus, est le centre de notre joie, individuelle et communautaire. Jésus est notre trésor commun. On l'a chanté tout à l'heure, le trésor des cieux. Il est notre trésor commun. Il n'est pas seulement mon trésor. Quand on lit le verset 17, c'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a donné la force d'annoncer pleinement son message, alors que Paul vient de dire que tout le monde l'a abandonné. On pourrait croire, en lisant ce verset, que Paul est en train de dire « Regardez, vous tous mes soi-disant amis et collaborateurs qui m'avez laissé tomber, Jésus, lui, ne m'a pas laissé tomber. Vous, vous êtes des incapables, mais lui, il est infaillible. » Mais ce n'est pas ce que dit Paul. Oui, c'est vrai, Jésus ne faillit jamais. Et oui, c'est vrai, les gens sont faillibles et décevants. Mais Paul n'en tire pas la conclusion que les autres sont mauvais et qu'il doit se réfugier dans une relation unique avec Jésus en laissant tomber à son tour l'Église. Je ne suis pas encore très âgé, mais j'ai suffisamment d'années de vie chrétienne derrière moi pour avoir entendu à plusieurs reprises ce genre de discours. Par exemple, les gens, surtout les chrétiens, sont décevants. L'Église est décevante. Le pasteur est décevant. Et dans chaque Église, c'est la même chose. Alors, je m'éloigne de l'Église et je continue ma vie de chrétien seul avec Jésus. Là, je suis sûr de ne pas être déçu. Les autres m'ont déçu, mais moi, j'ai Jésus pour me soutenir. On pourrait croire que ça sonne juste, mais ce n'est absolument pas ce que dit Paul ici, ni ce que Jésus nous demande. Jésus ne nous a pas sauvés pour être uniquement en relation avec lui, mais pour être en relation avec lui dans une communauté d'hommes et de femmes qui, comme nous, ont fait l'expérience de sa grâce. Je répète, Jésus ne nous a pas sauvés pour être uniquement en relation avec lui, mais pour être en relation avec lui dans une communauté d'hommes et de femmes qui, comme moi, comme nous, ont fait l'expérience de sa grâce. Et ceux qui pensent pouvoir se passer de l'Église pour vivre tout seul avec Jésus se trompent lourdement. Jésus n'est pas seulement mort et ressuscité pour faire de moi une nouvelle créature. Il est aussi mort et ressuscité pour faire de nous une nouvelle communauté, pour faire de nous son Église. Que dit Paul au verset 9 ? Puisque j'ai dit que c'est absolument pas ce que dit Paul. Au verset 9, Paul dit à Timothée, « Efforce-toi, c'est-à-dire fais tout ton possible, tous tes efforts pour venir me rejoindre dès que possible. » Et on trouve exactement le même verbe, la même formule, au verset 21. « Tâche de venir avant l'hiver » ou « Fais tout ton possible pour venir avant l'hiver. » Si Paul se contentait de sa relation privée avec Jésus, il ne dirait pas cela. Il ne demanderait pas à Timothée de venir le plus vite possible. Il ne dirait pas à ses collaborateurs qu'il lui manque, qu'il a hâte de les revoir. Vous voyez, le soutien de Jésus à l'égard de Paul pendant son procès n'a pas remplacé le soutien des amis chrétiens qui l'ont abandonné. Combien de fois Paul écrit-il des choses semblables dans ses lettres ? Par exemple, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, il a envie de revoir ces jeunes chrétiens qu'il a dû quitter précipitamment parce qu'il était persécuté. Il s'inquiète pour eux. Paul ne se contente pas de sa relation personnelle avec Jésus. Oui, Jésus est l'ami infaillible. Oui, les autres chrétiens ne sont pas des amis infaillibles. Et Jésus n'a jamais dit que la joie de sa présence remplacerait la joie de la présence des amis chrétiens. Jésus et moi, seul au monde, ça n'existe pas dans la vraie vie. Parce que ça n'existe pas dans le plan de salut de Dieu pour nous. Sixième remarque. Dans la vie chrétienne, le fait d'être proche de Dieu, et pour Paul, proche de la mort, n'annule pas le besoin ou le désir de lire et d'être nourri spirituellement. Je répète, dans la vie chrétienne, le fait d'être proche de Dieu, proche de la mort pour Paul aussi, n'annule pas le besoin ou le désir de lire et d'être nourri spirituellement. Verset 13. Lorsque tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, ainsi que les livres, surtout les parchemins. Alors nous ne savons pas ce qu'il y avait dans ces livres et ces parchemins. C'était peut-être des écrits de philosophie grecque. C'était peut-être des lettres de Paul qu'il avait écrites ou commencé à écrire et qu'il avait laissées. C'était peut-être des lettres qui sont des morceaux de notre Nouveau Testament. Nouveau Testament qui était en train d'être constitué. Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que Paul, alors qu'il est à la fin de sa vie et qu'il va bientôt être condamné à mort, demande à Timothée de lui amener quelque chose à lire. C'est quand même très étonnant. Imaginez, Paul va rencontrer Jésus en personne dans quelques heures ou dans quelques jours ou quelques semaines et il demande à Timothée de lui apporter de la lecture. Vous feriez ça, vous ? S'il vous restait quelques heures ou quelques jours à vivre, comment est-ce que vous occuperiez vos heures ou vos jours ? Pourquoi Paul veut-il lire ? Première réponse, parce que la parole écrite de Dieu est la source de sa vie et de sa foi, quelles que soient les circonstances et le nombre d'années de vie chrétienne qu'il a derrière lui. Deuxième réponse, à l'approche de sa mort, Paul a besoin du réconfort de la parole de Dieu. Parce que la Bible a des choses à lui dire dans ces circonstances particulières. Par exemple, psaume 56, « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Je loue Dieu pour sa parole, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Même l'empereur romain lui-même qui va prononcer l'exécution de Paul, quel pouvoir a-t-il finalement, puisque Paul est entre les mains de Dieu ? Eh bien, c'est en lisant des paroles comme celle du psaume 56 que Paul peut trouver du réconfort. Ou bien, psaume 49, « Dieu rachètera mon âme du séjour des morts. Oui, il me prendra. » L'assurance d'échapper à la mort éternelle à cause du sacrifice de Jésus. Et on pourrait continuer la lecture pendant longtemps. Et nous pourrions, j'en suis sûr, témoigner les uns ou les autres de ces paroles que Dieu nous a données dans une journée ou dans une circonstance difficile, par l'intermédiaire d'un frère, d'une sœur, d'une lecture. Apporte-moi les livres, surtout les parchemins. Prenons ou reprenons l'habitude de lire la parole écrite de Dieu pour notre propre réconfort et pour celui des autres. Septième et dernière remarque. Il faut se satisfaire du nécessaire. Vous reconnaissez la référence ? C'est Balou, l'ours du livre de la jungle de Disney. Avec trois enfants, on fait ce qu'on peut. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Je ne vais pas vous le chanter. Les chrétiens, et à plus forte raison les chrétiens qui ont une certaine autorité, une certaine influence, pasteurs, responsables, n'ont pas besoin de posséder beaucoup de biens matériels. Verset 13, de nouveau. Lorsque tu viendras, « Rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. » C'est sérieux ? Paul est l'apôtre du Christ. Jésus-Christ lui a délégué son autorité. Il a parcouru le monde gréco-romain en tant que représentant officiel du roi, Jésus, pour annoncer l'évangile aux non-juifs. Paul a implanté de nombreuses églises. Paul a écrit une partie des lettres que nous trouvons dans la Bible. Paul est en prison à cause de sa foi et de son ministère. Et il demande un manteau. Et même pas un manteau tout neuf. Mais celui qu'il a laissé chez Carpus. Donc un manteau probablement usé. C'est sérieux ? C'est ça la gloire d'un disciple de Jésus ? C'est ça la récompense pour avoir suivi Jésus, un vieux manteau pourri, pour ne pas se geler dans une cellule de prison miteuse ? C'est sérieux ? Timothée est pasteur à Éphèse, à 1500 km de Rome, où Paul est emprisonné. C'est ce que m'a dit Google Maps. Timothée n'a pas de voiture, il n'a pas d'avion, il ira probablement à pied et en bateau. C'est un long et périlleux voyage. Et la mission que l'apôtre Paul lui confie, c'est de lui amener son manteau. Paul, achète-toi un autre manteau. Je ne sais pas si tu es au courant, mais on fabrique des manteaux à Rome. C'est même peut-être la période des soldes romaines d'ailleurs. Ou bien demande à un collaborateur sur place de t'en fabriquer un, je ne sais pas. Amène-moi mon manteau. Quel est le sens de cette demande ? Pourquoi c'est dans la Bible ça ? Nous ne savons pas. Si ce n'est que c'est probablement une petite trace de l'incroyable humilité et simplicité de l'apôtre Paul. Apôtre dont Dieu, dans sa grâce, nous a transmis l'exemple dans ce que nous lisons ce matin. Amène-moi mon manteau. C'est tout ce dont j'ai besoin. Quand on a une certaine autorité et une certaine influence, on peut commencer à croire que les gens nous doivent un respect dû à notre titre et à ce que nous faisons. Alors les titres et les actions sont des choses importantes, mais elles peuvent aussi nous rendre orgueilleux si elles nous placent au-dessus des autres. Paul voit l'hiver approcher à Rome. Il sait qu'il a laissé son manteau dans la ville de Troas et il demande à Timothée de lui apporter. C'est tout. Où sont l'humilité et la simplicité dans la gestion de nos biens matériels? De quoi avons-nous réellement besoin? Je ne vais pas plus loin sur ce sujet ce matin. Nous l'avons un peu travaillé dans nos groupes de quartier, mais j'ouvre seulement là quelques questions. Si nous avons une certaine influence dans notre famille, dans notre métier, dans l'église, ne croyons pas que nous méritons d'avoir toute une armoire remplie de manteaux. L'apôtre Paul s'est contenté d'un seul manteau. Et nous? Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, ce texte le décousu est très précieux pour nous. Merci de nous faire entrevoir la simplicité de l'apôtre Paul et l'immensité de ta fidélité. Merci parce que tu es l'ami par excellence, et en particulier l'ami des êtres humains pécheurs. Merci de m'avoir entouré d'amis chrétiens. Oui, ils sont imparfaits, moi aussi. Apprends-nous à nous aimer et à nous pardonner quand c'est nécessaire. Apprends-nous à nous défaire de nos jugements simplistes et faux à propos des autres. Aide-nous à déposer notre amertume, notre colère, notre désir de reconnaissance au pied de ta croix, pour devenir des hommes et des femmes de réconciliation, des collaborateurs, des amis qui témoignent autour de nous et dans cette ville, dans ce département, qu'être chrétien, ça change les relations et ça les change bien. Nous prions au nom de Jésus. Amen.